Je suis avec Louis Laurin qui est en train de fumer sa clope parce qu'il vient de terminer ses balances. On est day one de Sonic Protest. Ça commence ce soir au consulat Voltaire à Paris. Il est donc 15h25. Comment sont passées les balances, Louis ?
Ça s'est très bien passé. C'est très beau. La salle est super. Ça résonne et c'est bien pour jouer de la trompette quand ça résonne. Ce qui n'est pas le cas pour tous les instruments et toutes les musiques. Mais ici, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit, parce que je pense que ça s'y prête. Et j'avais déjà joué ici pour Sonic Protest, en fait, de la trompette résonante. Je sais plus quelle édition, mais c'était avec Nicolas Collins. C'était une composition de Nicolas Collins avec de la trompette et du feedback. Donc j'avais gardé ce truc-là en mémoire et ça sonne toujours pareil, à savoir résonnant.
Et c'est quoi ta connexion, toi, avec ce Sonic Protest ?
Eh bien, ma connexion, d'abord, c'est spectateur. Première fois, je pourrais pas dire quoi exactement, je sais plus. Ah, je peux peut-être m'en rappeler, parce que je mélange les éditions et tout ça. Mais ensuite, ma deuxième connexion, c'est Arnaud Rivière, parce que je joue dans un orchestre qui est un orchestre qui s'appelle Onseim, qui est un grand orchestre de 30 musiciens et dans lequel Arnaud jouait. Il ne joue plus dedans, mais et c'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud. Et puis, c'était il y a plus de 10 ans. Et du coup, à force de le travailler au corps, de lui envoyer chaque année tout ce que je fais et tout ça, ça finit par payer. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai jamais fait ça, parce que je pars du principe qu'Arnaud fait bien son travail et qu'il écoute les choses des gens autour de lui.
Justement, j'allais te poser la question qui fâche, quoi. T'es bien payé, j'espère, au moins.
Je sais pas encore. J'attends la surprise. Faites surprise. J'ai pas de bordée.
Donc effectivement, tu disais que tu avais joué avec Arnaud dans ce projet qui s'appelle
Onseim, Orchestre de Nouvelles, c'est un acronyme, Orchestre de Nouvelles Créations d'Expérimentation d'Improvisation Musicale.
Ouais, et t'adores les projets avec des acronymes. Ce matin, j'ai fait une petite émission de radio pour lancer notre radio Sonic Protest et j'ai joué une cassette que je me suis procurée à ta release party de ton groupe qui s'appelle Trou de taupe et nid de guêpe, donc TDT NDG.
Voilà, c'est le moyen mnémotechnique pour se rappeler de l'acronyme.
Et donc une façon de se moquer des Flamands, c'est ça, de l'accent flamand ?
C'est une blague qui m'a été apprise par un acteur belge qui m'a. Mais ça commence par une question. Ça commence par vasectomy ? Vasectomir, c'est qu'est-ce que tu dis, vasectomy ? Et la réponse, donc vasectomy, et la réponse c'est trou de taupe, nid de guêpe.
Voilà. Trou de taupe, nid de guêpe, et ça veut dire quoi, trou de taupe, nid de guêpe?
J'en ai aucune idée, je pense que ça ne veut rien dire du tout. C'est trou de taupe, nid de guêpe. Nid de guêpe.
Et donc moi j'ai adoré ce projet, et c'est complètement différent de ce que tu vas faire ce soir avec la trompette, parce que ce soir tu souffles dans la trompette.
C'est un solo que je joue beaucoup. En fait, j'avais envie de faire un set complètement acoustique, hyper transportable, hyper malléable, justement pour jouer dans toutes sortes d'endroits, d'aller jouer dans la forêt, d'aller jouer dans la montagne, d'aller jouer n'importe où, dans des petits endroits, des grands endroits, des bars, n'importe où. Et puis donc parce que je l'ai bossé pas mal en extérieur, et puis que j'avais envie aussi de, c'était aussi une moyen pendant 2 ans, un moyen que j'ai trouvé aussi pour jouer pas mal, parce qu'il y avait pas mal de trucs qui se passaient les 2 dernières années en fait, mais qui étaient un peu pirates. Du coup, les 2 dernières années, je l'ai beaucoup joué dans des trucs en extérieur, et puis des trucs un peu, ouais, des trucs pas officiels, et tout ça, un peu planqué.
Ok.
Et ce qui fait que je l'ai bien bossé. Je suis content de ce soir de le présenter un petit peu, on va dire dans une version
plus aboutie.
En tout cas pour plus de public. C'est un petit peu amplifié parce que il y aura un petit peu de monde. Et puis j'ai pas mal de concerts dans les pattes, comme on dit, donc je suis prêt, on va dire. Enfin, est-ce qu'on peut être prêt, mais je pense l'être. Bon, après ça va bouger, hein. Il y aura des transformations. Ouais.
En tout cas, t'as l'air en pleine forme. Ça a pas l'air de t'avoir trop fatigué d'avoir eu toutes ces dates là.
Non, d'avant. Je suis juste allé voir mon médecin tout à l'heure pour qu'il me prescrive des j'allais dire des stéroïdes, mais non, c'est pas des stéroïdes. Non, des cache-tombe pour dormir un peu. J'ai un peu de mal à dormir ces derniers temps.
Parce que, bah oui, forcément, parce que tu te couches à pas d'heure, c'est pour ça.
Et je me lève très tôt parce que j'ai des enfants. Voilà.
D'ailleurs, ça va, t'as encore un peu de temps ou tu dois aller?
C'est bon.
Ouais,
ok. C'est
cool. Ouais, je me demandais justement, est-ce que cette pratique qui s'apparente un petit peu à celle d'un batteur, hein, parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui joue de la trompette avec une dextérité au niveau des doigts qui est vraiment hyper impressionnante et que, bon, j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de l'apprentissage de la trompette. C'est quelque chose que t'as développé toi en particulier, ce
Alors,
martelage des pistons.
Voilà, en fait, quand on fait de la trompette de manière plus classique, chose que j'ai faite, on essaye de pas de cacher les bruits parasites, c'est-à-dire tous les bruits qui sont pas des bruits mélodieux qui sortent du pavillon, tous les clac-clac de pistons, tous les petits. Et puis, ben, à force de jouer de la trompette, des fois, quand on joue tout seul, on a ces espèces de petits sons parasites qui sortent, qui sont des sons mécaniques, qui sont des résultantes de la mécanique de la trompette, qui est un piston dans un cylindre avec un truc qu'on dévisse et qui fait clac quand on remonte, ou clac quand on appuie trop fort, ou clac quand on n'a pas bien entretenu sa trompette, parce que normalement, faut mettre des feutres au niveau des pistons pour étouffer justement ce petit son. Et puis, vu que j'étais pendant 6 mois dans mon coin à bosser, au bout d'un moment, ça faisait clac-clac. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce clac-clac comme un son, l'accepter comme un son aussi important que le reste.
Percussif,
qui est faible volume par rapport à un batteur. Et puis, j'ai trouvé aussi d'autres petites combines en enlevant un bout de ma trompette pour l'accrocher à mon doigt pour me faire une petite baguette, pour faire des polyrythmies, des choses comme ça. Des techniques de batteur qui sont pas du tout des techniques de batteur, en fait, parce qu'un batteur, son métier, son travail, c'est de taper en rythme, mais aussi de faire résonner un corps résonnant, un tambour, une cymbale et tout ça. Moi, c'est pas ce qui sort de là quand je suis en solo, c'est des clac-clac, quoi. C'est pas forcément beau comme son, mais ça donne, et du coup ça accompagne en gros tous les morceaux que je joue, que je vais jouer ce soir. En gros, c'est basé sur un système. C'est mes doigts qui bougent, mais ils bougent pas n'importe comment. C'est des espèces de combinatoires de doigts. J'ai 3 doigts à la trompette, j'ai 3 pistons. Et en gros, c'est des combinaisons que j'ai bossées, qui sont pas des combinaisons qu'on travaille quand on étudie la trompette, qui sont vraiment adaptées au système que j'ai mis en place, que ce soit avec Pierce ou que ce soit en solo, qui est la même chose, en gros, qui consiste à enlever des coulisses. Les coulisses, c'est, en gros, c'est des espèces de tuyaux qui sont rattachés au piston. Et j'ai bossé ces espèces de combinaisons en me faisant des études, quoi, des exercices, les ai bossé lentement, vite, des groupes de 5, des groupes de 7, des groupes de 10, des longues formes, des petites formes.
Au-delà de ce travail percussif sur la rythmique qui est vraiment important et qu'on ressent et qu'on entend avec tous les claquements des pistons comme on vient de le décrire, il y a aussi ce travail sur le souffle. Est-ce que ce que tu fais, par exemple, ça s'apparente au souffle continu qu'il peut y avoir chez certains saxophonistes, par exemple?
Ouais, dans tous les instruments avant, en gros, c'est une technique qu'on utilise quand on veut pouvoir maintenir le son en continu, vu qu'on doit respirer normalement, donc arrêter le son. La technique de respiration continue, elle permet juste une plus grande flexibilité dans les moments où on respire. Donc, c'est-à-dire que je l'utilise pas en continu. Tout le temps, je fais pas 40 minutes de souffle continu, mais parfois dans des morceaux, vu que je veux faire des longues phrases, on va dire, comme quand on parle, je veux faire des longues phrases, et ben je respire au milieu. Alors on entend des fois, c'est que je... Après, le aussi un travail vachement important, quelque chose qui m'a vachement occupé avec ce solo que j'ai joué ce soir, c'est j'utilise beaucoup de sourdines. Les sourdines, c'est ce qu'on met devant le pavillon. Qui servent à transformer le son. Et c'est pour ça que la trompette, c'est un instrument qui est que je trouve assez fascinant. C'est qu'en mettant quelque chose devant le pavillon, ça peut être n'importe quoi, mais j'utilise des sourdines normales de trompette, classiques, qu'on achète dans des magasins, mais aussi d'autres trucs que j'ai un peu inventés, ou que j'ai bricolés et tout ça. Ça permet de transformer le son. Ça permet de créer, par exemple, de faire une distorsion, par exemple, en mettant... une petite membrane vibrante devant le pavillon. Ça permet d'étouffer le son, de jouer moins fort, de filtrer que les aigus, de faire sortir que les graves, de fermer puis d'ouvrir comme un filtre, quoi, comme des potards dans une...
Mais en gros, t'apparentes une trompette qui a simplement 3 pistons et un arrangement de tuyaux avec un pavillon, tu le transformes en une espèce de synthétiseur avec plein de filtres, quoi.
En fait, c'est pas moi qui fais ça. Depuis toujours, en fait, les gens qui ont fait de la trompette, en fait, si tu regardes dans les années 20, dans les années 30, les musiciens de jazz américain, de swing, alors ça se faisait aussi avant dans les orchestres, mais c'est surtout eux qui ont vraiment commencé à développer, à bricoler des sourdines, c'était hyper répandu. C'est-à-dire qu'ils prenaient des sourdines, ils les cassaient un peu, ils les faisaient grésiller, ils utilisaient des débouches chiottes, ils jouaient la note, puis ils chantaient en même temps pour faire ce qu'ils appelaient le growl, qui est un espèce de son de jungle, un peu un rugissement de tigre et tout ça. Donc toutes ces techniques-là, en fait, en tout cas cet état d'esprit de transformation du son, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça s'inscrit dans une longue tradition que j'ai effleuré en jouant du jazz, parce que j'ai beaucoup joué de jazz, je continue aussi, mais j'ai joué pendant 10 ans dans un big band de jazz qui s'appelle Umlaut Big Band, où on jouait justement de la musique des années 20, 30, 40, 50, et j'ai vraiment pu comprendre à quel point les musiciens de cette époque étaient vraiment des gens hyper inventifs. Ils cherchaient vraiment une singularité. Parce qu'à l'époque, dans les années 20, 30, 40, le jazz, c'était la musique la plus populaire, c'était des stars, ça passait à la radio et tout ça. Des trompettistes, il y en avait à l'appel, des excellents trompettistes ou saxophonistes, il y en avait à l'appel, et il fallait qu'ils se démarquent les uns des autres. Et certains, leur façon de se démarquer, c'était d'utiliser telle sourdine, pour tel type de son. Pour ceux qui écoutent Miles Davis, il a sa sourdine Harmon et tout ça, c'était son petit son et tout ça, voilà. C'était des moyens. Et puis il y en a d'autres, ils utilisaient d'autres techniques, ils utilisaient d'autres sourdines, et c'était chacun, parce qu'ils n'allaient pas faire la compète de ceux qui jouaient. Il y avait la compète de ceux qui jouaient le plus fort, le plus aigu, le plus vite, mais le plus intéressant, c'est celui qui trouve son son, quoi. Son style, son son. Et moi, vraiment, je me revendique de cet héritage-là. C'est pour ça que je pense que vraiment, ma pratique est vraiment ancrée dans le jazz aussi, parce que c'est pour moi une approche que je trouve vraiment fascinante de ce point de vue-là, qui est en fait la même approche qu'un mec qui fait du synthé, qui cherche des sons, des textures, des granulations, des choses comme ça. C'est la même chose, en fait. Tous les gens qui font de la musique, un peu sérieusement, en fait, font ça. Réfléchissent sur le son qui sort de leur instrument et comment le faire pour le modifier, pour changer les variables et tout ça.
Et là, ça va être vraiment très, très parlant ce soir et très visuel.
Ouais, c'est transparent.
Tu peux nous décrire un petit peu, justement, le dispositif? Qu'est-ce que t'as,
en gros,
que t'as trouvé comme moyen de modifier?
Bah, en gros, qu'est-ce que j'ai trouvé comme moyen de modifier? J'ai bricolé, on va dire, mes sourdines, qui sont des sourdines normales, dans lesquelles il y a des trous, pour laisser passer le son, et dans les trous, par exemple, des fois, je mets des apos. Des trucs pour les oiseaux, là, pour appeler les oiseaux. Ce qui fait qu'on entend la note, mais on entend en même temps un espèce de bourdon ou un grésillement qui est un appôt de canard ou un appôt de, j'en sais rien, de jais, qui sert juste à rajouter du grain, quoi, dans le son. J'utilise ça. J'utilise donc pas mal d'appôts. Il y a un morceau où je fais que des appôts. Je les plante dans mes coulisses et j'appuie sur les pistons et ça fait des bruits d'appôts avec une rythmique un peu rapide. Il y a d'autres trucs. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Franchement, c'est assez basique, hein. J'ai des appos, j'ai une petite baguette pour faire clac-clac, trois sourdines, c'est tout. Un bouchon de vin qui est coupé, que je mets sur mes pistons pour que ça aille pas jusqu'au fond du piston pour laisser passer à moitié. C'est comme si quand tu tournes ton potard, ça va que à moitié. Ça va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, en fait. Vraiment, c'est hyper simple, hein, c'est du bricolage.
Et il y aura un enregistrement de ce qu'on va découvrir ce soir?
Alors, j'ai enregistré, il y a pas mal de trucs dans les tuyaux. J'ai enregistré, il y a deux semaines à Genève, chez quelqu'un qui s'appelle Dincis, qui est un musicien un peu connu dans le milieu. Qui a un studio à Genève. J'ai enregistré ça il y a deux semaines. Ça va sortir sur Insub. Je pense dans pas très longtemps. On va essayer de faire ça en mai, juin et tout ça. En cassette ou en CD, on va voir. Et puis en parallèle, depuis l'année dernière, j'ai un projet où, pareil, de solo là, mais enregistré dans une montagne. Je viens de Haute-Savoie et puis je suis allé passer trois semaines dans un alpage pour aller enregistrer dans différents lieux avec différents types d'acoustique dans la montagne, un grand cirque avec beaucoup de réverb, une grotte, des trucs de la trompette, un peu ce que je fais ici, avec beaucoup d'environnement sonore de la montagne et tout ça.
Et c'est toi qui as enregistré tout ça?
Non, je suis allé avec une une artiste qui est basée à Genève, qui est russe, qui s'appelle Olga Kokcharova, qui est une super, super musicienne, qui fait vraiment des choses chouettes. C'est elle qui a fait la prise de son, qui fait beaucoup de prises de son de nature, pour du film, pour des field recording, des projets à elle aussi. Et puis, on pensait qu'on avait fini. Et puis j'ai réécouté, puis vu que j'ai 3 ans pour faire le disque, j'ai eu un petit peu d'argent pour le faire ce disque. Du coup, je me suis dit j'aimerais bien fignoler le truc, et du coup j'ai retourné en juin pour fignoler le truc. Donc j'ai 2 disques en solo dans les tuyaux, et il y en a un qui est en train de, enfin qui est sorti en juin, mais il y a toujours pas les vinyles. Bref, enfin en gros c'est l'embouteillage.